Paul Dietschy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes commissaire de l'exposition 1924-2024, les Jeux Olympiques, miroir des sociétés au mémorial de la Shoah à Drancy. Alors, dans cette exposition, à partir d'images marquantes des différentes Olympiades, les visiteurs sont amenés à s'interroger sur les discriminations dans l'histoire, tout particulièrement l'antisémitisme et le racisme, et à les mettre en résonance avec l'actualité. Alors, pour commencer, Paul Dietschy, pouvons-nous faire un petit tour de cette exposition avec vous ?
Oui, alors il y a une exposition qui a 24 panneaux qui revisite notamment l'histoire des Jeux Olympiques, qui essaie d'expliquer l'origine des différents symboles, hein, les anneaux, les rituels, le défilé, la course avec la torche, et puis qui revient sur un certain nombre d'éditions importantes, hein, depuis les deuxièmes Jeux Olympiques de Paris, donc en 1924, jusqu'à aujourd'hui. Donc, bien évidemment, il y a des éditions qui sont particulièrement importantes, hein, par rapport aux thématiques. Ce sont les Jeux de Berlin, bien évidemment, qui ont été les Jeux défigurés, surtout les Jeux annexés par le régime national-socialiste. Ce sont aussi des Jeux de la guerre froide, les Jeux de Melbourne en 1956. C'est aussi, bien évidemment, le triste souvenir, hein, et de l'assassinat de 11 athlètes israéliens aux Jeux de Munich en 1972. Et puis, par ailleurs, eh bien, il y a des focus sur certains athlètes, sur les épreuves, pour montrer comment les Jeux, finalement, ont été à la fois un lieu, certes, de discrimination, où notamment les athlètes juifs ont dû se battre pour participer. Pense à Harold Abrahams, un Britannique, fils d'immigrés juifs lituaniens, qui a dû se battre pour participer aux Jeux 24, où il a remporté le 100 mètres plat. Et puis en même temps, l'exemple d'Abraham se montre aussi que les Jeux sont aussi un lieu où on s'exprime, où on peut combattre les discriminations et où finalement le projet initial qui était celui de Coubertin et des membres du CIO de réserver les Jeux aux hommes et à des gens issus des classes supérieures, finalement, n'a pas réussi, puisque très vite, vous avez aussi des athlètes des colonies, vous avez les femmes en athlétisme à partir de 1928 qui y participent.
Alors justement, vous en avez parlé, ces fameux JO de Berlin en 1936, c'est un lien évident entre l'antisémitisme et les JO. Il faut rappeler que ces JO étaient basés quasi uniquement sur les discriminations, notamment l'antisémitisme, et c'est d'ailleurs une grande partie de votre exposition.
Oui, alors ces Jeux, bien évidemment, renvoient, ils ont lieu en 36, un an après les lois de Nuremberg, et qui excluent les Juifs de l'essentiel de la vie allemande, et notamment aussi du sport. Alors ça a commencé dès 33. Dès 33, les fédérations allemandes ont exclu leurs membres juifs, qui ne pouvaient finalement s'entraîner ou concourir que dans leurs organisations. Donc il y avait l'organisation sioniste Maccabi, il y avait des organisations d'anciens combattants comme Shield, mais en fait c'était beaucoup très difficile parce que très souvent les stades, les piscines leur étaient fermées. Et face à ces discriminations, il y a eu des mouvements de boycott, notamment aux États-Unis, de la part des organisations juives, ce qui fait que le régime nazi a trouvé une solution, entre guillemets, a fait revenir une escrimeuse allemande aux ascendances partiellement juives, qui s'appelle Hélène Mayer, et qui a participé aux Jeux. Et ainsi, l'Allemagne a pu dire qu'il n'y avait pas de discrimination dans l'équipe allemande, ce qui était évidemment totalement faux, quand on sait en plus le rôle qu'ont joué les Juifs dans le développement du sport allemand depuis la fin du XIXe siècle.
Alors, vous avez également mentionné Munich, 11 athlètes israéliens tués, c'est la page la plus sombre de l'histoire des Jeux Olympiques ?
Clairement, c'est la page la plus sombre pour diverses raisons. D'abord, évidemment, par la prise d'otage, puis l'assassinat. C'est d'abord deux athlètes israéliens, puis 11 à la fin. Donc, évidemment, ce sont des Jeux totalement ensanglantés. Une prise d'otage qui a évidemment pour fond le conflit israélo-arabe, mais qui est aussi une prise d'otage quand même à caractère foncièrement antisémite. Donc bien évidemment, c'est d'abord cela, en plein jeu, ce qui montre aussi l'impéritie de l'organisation allemande, qui n'a pas su sécuriser ses jeux, mais Bon, à l'époque, on n'imaginait pas que les Jeux pouvaient être le lieu d'attaque hein, terroriste. Et puis, par ailleurs, c'est évidemment aussi l'attitude du président du CIO d'alors, l'américain Avery Brundage, qui n'avait pas caché ses sympathies pour les Jeux de Berlin en 36, qui était notoirement antisémite et qui, après une journée d'arrêt, eh bien, a prononcé un fameux discours tristement célèbre, hein, « The games must go on », hein, les Jeux doivent continuer malgré, évidemment, ce terrible attentat. Et donc, en fait, qui n'aurait été d'une certaine manière qu'une péripétie malheureuse des Jeux pour lui.
Alors, Berlin 36 et Munich 72, ce sont les plus connus quand on parle d'antisémitisme. Il y a eu d'autres exemples après Munich ?
Alors, ponctuellement, hein, d'abord parce que le sport est aussi un lieu où les pays du Golfe Persique eh bien, ont essayé d'abord d'exclure les footballeurs, les athlètes israéliens, notamment de toutes les confédérations asiatiques, hein, ça c'est dans les années 70. Et puis bah, aujourd'hui, c'est des athlètes comme au dernier jeu de Tokyo, un judoka algérien qui refuse de concourir parce qu'il risque de rencontrer hein, dans son tableau eh bien, un judoka israélien. Bon, bah, c'est le type même, évidemment, de comportement antisémite et qui bafoue finalement l'universalité du sport.
Les Jeux Olympiques se sont souvent illustrés dans la lutte contre le racisme aussi. L'image qui nous vient peut-être le plus en tête, c'est 68 à Mexico, où Tommy Smith et John Carlos lèvent leurs poings en l'air, munis d'un gant noir, pour protester contre les discriminations.
Oui, alors cette lutte contre le racisme, ça prend différents visages. C'est d'abord bon l'apparition évidemment de l'athlète noir hein, dans les équipes. D'ailleurs, la France a été relativement en avance pour cela, mais aussi dans l'équipe américaine. On se souvient évidemment de Jesse Owens en 36. Donc très vite, pour les athlètes américains noirs, c'est devenu un lieu de revendication hein, contre la ségrégation raciale. Et le geste de Tommy Smith et John Carlos, hein, c'est en pleine décennie des années 60 hein, de lutte pour les droits civiques, de lutte contre la ségrégation raciale qui est observée dans les États du Sud de l'Amérique, eh bien une revendication, alors qu'ils ont payé cher hein, parce que ils ont ensuite été exclus des Jeux, ils ont eu du mal pendant plusieurs années, hein, ils ont perdu leur bourse, etc. Mais ça a été évidemment un geste qu'on peut dire iconique, hein, ça fait partie des gestes iconiques peut-être du XXe siècle et qui finalement, même s'il a été critiqué à l'époque hein, parce qu'on considérait que les Jeux devaient être apolitiques, ce qu'ils n'étaient évidemment pas pendant la guerre froide, mais très vite finalement, bah, ça a fait prendre conscience hein, de cette question-là. Et ce qui est intéressant, c'est que, donc ça c'est en 68, en 1984, la grande vedette, c'est Carl Lewis. Hein, et d'une certaine manière, Carl Lewis, avec tous ses contrats publicitaires avec Nike, avec sa visibilité, c'est un petit peu finalement le produit du geste de John Carlos et de Tommy Smith.
Pour finir, vous l'avez évoqué dans votre première réponse, mais aujourd'hui, en 2024, on peut le dire que les Jeux Olympiques ont souvent, voire tout le temps, été un reflet de la société et également un théâtre pour les protestations.
Oui, bien évidemment, parce que d'abord, les Jeux Olympiques, c'est le rassemblement de l'humanité sportive et au-delà. Donc, bien évidemment, c'est un lieu de rencontre, c'est un miroir un petit peu grossissant, finalement, de ce qu'il se passe dans le monde. On le voit avec l'évolution, ben, par exemple, du statut de la femme, hein, la participation croissante. Aujourd'hui, les femmes participent pratiquement à toutes les épreuves. Donc ça, c'est une chose, bien évidemment. Avec la décolonisation, c'est l'arrivée des athlètes africains, asiatiques. Donc là aussi, c'est un lieu, évidemment, de bouillonnement, si j'ose dire. Et puis, c'est aussi, alors ça, c'est un retour d'une certaine manière. Les États ont toujours voulu bien figurer, mais avec la montée en puissance d'États autoritaires qui instrumentalisent le fait sportif, eh bien, ces Jeux Olympiques redeviennent finalement un enjeu. Hein. Et l'enjeu de Paris, me semble-t-il, hein, bon, je ne dis pas ça parce que je suis français, mais c'est aussi d'essayer de revenir finalement à des Jeux Olympiques qui seraient ceux de la promotion de valeurs démocratiques, la promotion de la tolérance hein, et de toutes les tolérances et donc de sortir finalement de cette instrumentalisation de plus en plus croissante du sport par des dictatures, hein, il faut dire le nom.
Paul Dietschy, je rappelle que vous êtes commissaire de l'exposition Paris 1924-2024, les Jeux Olympiques, miroir des sociétés au mémorial de la Shoah à Drancy. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka.
Je vous en prie et bonne journée.